Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 8 mars 2018. C'est la Journée internationale des droits des femmes. Alors, bonne journée, en fait, à toutes celles qui le méritent. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe du jeudi matin, Monique.
Bonjour. Et il ne reste que 12 jours avant le printemps.
On a tellement hâte. Ah oui. Et Yvan Deslauriers.
Bonjour.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Moi, je commence, c'est le 8 mars, alors je commence, mon premier article nous parle de, c'est quoi ça, un sport de filles?
Un sport de filles.
Oui. Ben quand on était petit, au ballon chasseur, on disait « elle lance comme une fille ».
Oui.
Mais là, on parle de sport de filles.
OK.
Et ma deuxième intervention, c'est une suite d'il y a deux semaines, quand je parlais de la grande traversée de la Gaspésie. Et là, on se demande, puis je me sens visé là-dedans, on se demande « pourquoi est-ce qu'on embarque dans des défis sportifs? »
D'accord. Alors, on s'en va dans ce genre de défis.
Oui.
Et Monique?
Alors, on va commencer par un article sur les impacts positifs ou négatifs de l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé.
Oh.
Et ensuite, on va s'intéresser à la synchronisation de l'activité cérébrale entre deux personnes. Une qui touche la main de celle qui souffre. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là?
Mmh.
Et un deuxième qui apporte un éclairage nouveau sur ce qui distinguerait l'homme des autres espèces animales.
Oh, ça, c'est vraiment intéressant. On a hâte.
Okay.
Et dans mon cas, de mon côté, je vais vous parler de jouets et de sexisme. Il y a un lien, donc, avec la journée du 8 mars. Et je vais vous présenter une intéressante réflexion de parents à propos de la semaine de relâche. Alors, on est actuellement en relâche, pour certains, à tout le moins. Alors, voilà, on y va!
On y va!
On commence!
Alors, Yvan, sport de filles, sport de garçons, donc?
Peut-être. Alors, c'est un article qui s'intitule « C'est quoi un sport de filles? »
C'est quoi un sport de filles?
Je vais vous le lire.
Alors, on sera très attentif.
Oui, ça a été écrit par Samuel Larochelle dans une collaboration spéciale dans La Presse d'hier, le 7 mars. Si la pratique du soccer est extrêmement populaire au Québec, tant chez les garçons que chez les filles, le sport est étiqueté comme étant relativement masculin en Europe. Comme quoi, la nature féminine d'une discipline est sujette à interprétation selon l'endroit où on se trouve. Il convient aussi de rappeler que tous les sports ont longtemps été une chasse gardée pour les hommes. Rappelez-vous, en 1896,
oh oui,
faut reculer loin, là.
Lorsque Pierre de Coubertin a relancé le mouvement olympique, aucune épreuve féminine n'était au programme. Puis là, lancez-moi pas de pierre. Le seul rôle réservé aux femmes consistait à remettre des couronnes en feuilles de vigne aux gagnants. Ce genre de décision a incontestablement participé aux constructions sociales associant certains sports à un genre plus qu'à l'autre. Selon Suzanne Laberge, qui est professeure et responsable du laboratoire de sociologie du sport, oh, Monique, elle me fait des grands signes, de promotion de l'activité physique de l'Université de Montréal. Si un enfant n'était pas immergé dans une société où le sport est genré, il n'aurait probablement pas la conception que tel sport est fait pour les gars et tel autre pour les filles, explique-t-elle. Durant notre expérience de vie, si un genre est absent d'une pratique sportive, on fait inévitablement des liens dans notre tête. À l'inverse, un sport comme la natation est assez unisexe parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui le pratiquent, nous dit-elle. Présidente d'Égal Action, Guylaine Demers rappelle que le sport est l'un des nombreux domaines où les notions de masculin et de féminin viennent avec une liste de comportements attendus. Apprendre à être un homme ou une femme, c'est ancrer très profondément dans nos façons d'être, nous dit-elle. Dans la pratique sportive, on associe les vrais gars à des concepts comme la force, la virilité, l'agressivité et la compétitivité. Je l'ai manqué, hein? Alors qu'on attend des filles qu'elles soient douces, gracieuses, surtout pas agressives, et qu'elles aident les autres. Ainsi, les sports ayant un volet artistique viennent tous avec une étiquette de féminité. Nage synchronisée, patinage artistique, gymnastique artistique, plongeon, danse, cheerleading. Peut-être que l'adjectif « artistique » fait peur et amène des préjugés, avance Marie-Hélène Claveau, directrice générale adjointe chez Gymnastique Québec. Quand on dit « artistique », c'est rare qu'on pense aux garçons en premier, puisque la grâce et l'élégance sont par tradition plus souvent associées aux femmes. Pourtant, la gymnastique est aussi une discipline de force et de puissance. Certains de mes collègues masculins se rappellent l'étiquette de sport de filles quand ils étaient jeunes et ils étaient gênés d'en parler, mais d'autres étaient considérés comme les gens cool de l'école car ils savaient faire des acrobaties. C'est propre à l'expérience de chacun. La présence d'une figure masculine forte peut également transformer les perceptions. Par exemple, il y a 20 ans, le plongeon était pratiqué à 85 % par les filles. L'ex-directrice exécutive de Plongeon Québec, Isabelle Cloutier, lance quelques hypothèses pour expliquer le phénomène. Il y en a une qui est plutôt comique. Peut-être que les gens voyaient le plongeon ainsi parce que c'est un sport artistique. OK. Ou parce que les garçons ne veulent pas porter de speedo, quand même. Mais par-dessus tout, les modèles de réussite étaient féminins. Sylvie Bernier, Annie Pelletier, Émilie Emmans. Tout a changé en 1998. Oh, on a des signes ici.
Mais oui.
Quand Alexandre Despatie est devenu le plus jeune médaillé de l'histoire des Jeux du Commonwealth. Sa popularité a renversé les statistiques, souligne Mme Cloutier. Dans les cours d'initiation, la parité a fait son apparition. Au niveau compétitif, dans les plus jeunes catégories, il y avait plus de garçons que de filles du jamais vu. Guylaine Demers met en garde la population contre les effets pervers des perceptions genrées. Les étiquettes excluent les garçons qui auraient le goût de pratiquer ces sports car ils vont s'auto-éliminer d'emblée, tout comme les filles le font encore beaucoup avec le football, le hockey ou le rugby, parce qu'on dit que ce sont des sports de gars et que si elles veulent les pratiquer, c'est parce qu'elles ne sont pas de vraies filles, donc des lesbiennes.
Oula.
Selon une étude qu'a menée Suzanne Laberge, les jeunes garçons sont très durs envers ceux qui désirent pratiquer des sports de filles. Ils se disent qu'il y a assez d'options faites pour les garçons, alors pourquoi faire des sports féminins? Ironiquement, ils trouvent ça correct que les filles pratiquent des sports de gars, comme si une fille s'élevait en faisant un tel sport et qu'un garçon se diminuait en faisant l'inverse. Résultat, les filles sont 10 fois plus nombreuses que les garçons dans certains sports comme la gymnastique artistique. La Fédération québécoise de gymnastique réfléchit d'ailleurs à des moyens pour changer les choses. On se questionne sur la façon de composer différemment avec les garçons, explique Mme Claveau. Heureusement, on peut compter sur une relève masculine, comme on l'a vu avec René Cournoyer au championnat du monde à Montréal en octobre dernier. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Québécois à ce niveau. On avait besoin de modèles. La présidente d'Égal Action affirme également que les athlètes de la communauté LGBTQ participent largement à l'évolution des mentalités dans le sport. Quand un athlète de football américain ou de rugby masculin fait son coming out, les gens comprennent peu à peu qu'ils ne peuvent plus associer un sport de dur à cuire avec l'image cliché voulant que seuls les vrais gars hétéros le pratiquent. Au fond, quand un athlète performe, ça n'a pas rapport qu'il soit gay ou non. Tous les concepts de binarité de genre sont en train d'éclater. Alors, ça nous donne une idée de « c'est quoi un sport de filles » sous la plume de Samuel Larochelle dans la presse d'hier du 7 mars.
Et ça nous dit qu'on a encore un peu de chemin à faire.
Oh oui, oui, ça c'est certain.
Définitivement. Alors, Monique, on parle d'intelligence artificielle.
Eh oui.
Est-ce qu'on devrait avoir peur?
Bien, en fait, oui et non, vous allez voir.
Okay.
Alors, sous la plume de Martin Lassalle, pour le journal Forum de l'Université de Montréal du 27 février dernier, l'article s'intitule « Intelligence artificielle et système de santé entre utopie et vision catastrophique ».
Oh.
L'intégration de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données massives dans les réseaux de santé est une réalité qui s'impose graduellement, et ça un peu partout dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé, que l'on appelle l'OMS aussi, estime d'ailleurs que le marché international de l'automatisation médicale passera de 37 à 79 de 2018 à 2024.
C'est donc le double.
À peine 6 ans là. Mais qu'en est-il au Québec? Jusqu'où est-il possible d'aller pour améliorer les soins et le système lui-même dans le respect des patients et des personnels soignants et administratifs? C'est la réflexion qu'ont menée près de 180 personnes issues du réseau de la santé, des milieux universitaires et de la recherche, ainsi que du secteur privé, à l'occasion du 35e colloque Jean-Yves Rivard, qui était organisé par l'École de santé publique de l'Université de Montréal, l'ESPUM, le 15 février dernier. Alors, à l'occasion d'une séance plénière, les participants ont exprimé leur vue sur les conséquences idéales, puis cauchemardesques, de l'introduction de l'intelligence artificielle, que l'on appellera l'IA pour les intimes, qui deviennent de moins en moins intimes, d'ailleurs, parce que je pense qu'on en parle beaucoup. Même j'en ai parlé, je pense, il y a 2 semaines. Mm-hmm. Et de l'analyse des données massives dans le système québécois de la santé. Alors, selon eux, dans le meilleur des mondes, les intérêts du patient primeraient. C'est lui qui s'approprierait les données de son carnet de santé. Il serait partie prenante des décisions éthiques le concernant. Et l'IA et les données massives permettraient l'inclusion des soins et leur accessibilité en assurant la protection des renseignements personnels. De plus, elle n'aurait pas préséance sur l'interaction humaine.
On souhaite.
Comme essentiel.
Oui.
Même s'ils n'ont pas beaucoup de temps pour nous soigner.
Mais ils sont bien payés, par exemple.
Oui, c'est ça. Commentaires éditoriaux.
Oui, c'est ça.
Fermons cette parenthèse. En revanche, les participants craignent perte de contrôle de cette technologie auto-apprenante qui pourrait par ailleurs être piratée par des personnes malveillantes. Certains ont soulevé le risque que les renseignements personnels parviennent jusqu'aux assureurs, qui pourraient limiter, voire refuser, l'accès à une protection pour certains patients. D'autres ont dit craindre que les critères de performance du système de santé puissent accroître les inégalités sociales, évoquant la possibilité que les patients soient notés en fonction du respect des traitements prescrits ou de leur habitude de vie.
Oula.
C'est assez inquiétant, en effet. Alors, que disent nos conférenciers? Selon les 14 conférenciers, la réalité se situera quelque part entre ces visions utopiques et catastrophiques ou dystopiques. Alors, d'après la professeure Aude Motulski de l'ESPUM, le dossier électronique individuel du patient, que l'on nomme le dossier Santé Québec, DSQ, implanté partout dans la province dès 2013, est une occasion majeure pour introduire l'intelligence artificielle et l'analyse des données massives dans le système de santé du Québec, car il permet de partager les informations cliniques provenant des pharmacies communautaires, des laboratoires et des centres d'imagerie publique pour chaque patient. Pas moins de 25 000 cliniciens se servent du DSQ chaque mois. Le potentiel des données du DSQ réside dans une meilleure compréhension des communautés desservies, des activités réalisées et de leur effet sur les individus et les populations. Cependant, seuls les cliniciens y ont accès en ce moment et pour un patient à la fois seulement. Et ce, souvent, ce sont les mêmes cliniciens qui consultent le DSQ. 20 % d'entre eux sont à l'origine de 85 % des consultations, donc une disproportion.
Ouais.
Selon Joseph Daïn du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, l'analyse des données massives et l'IA seront les bienvenues dans les unités de soins intensifs. Aux soins intensifs, il y a 66 lits et les nombreux appareils auxquels les patients sont branchés émettent en moyenne des signaux d'alarme toutes les 8 secondes, soit 2 507 822 000 signaux par mois.
Par mois?
Par mois. Ces technologies permettront de mieux gérer les informations et de réduire les erreurs médicales. Selon l'intensiviste, l'IA peut prendre différentes formes. Ce n'est pas de la fiction, car plusieurs applications aident déjà au diagnostic, au traitement et au suivi des patients. Une étude sur la numérisation des données a démontré une capacité de prédiction fiable à 93 % pour déterminer l'état de santé d'enfants admis aux soins intensifs. Donc, on voit là des effets positifs quand même. Selon une étude menée en 2017 par Marie-Pierre Gagnon, même si l'analyse des données massives en milieu hospitalier comporte des avantages pour le personnel infirmier, elle peut entraîner certaines conséquences inattendues. Ainsi, elle a observé une amélioration sur le plan de l'accès à l'information et de la qualité de la documentation, ainsi qu'une meilleure collaboration interprofessionnelle. Par ailleurs, le potentiel demeure énorme, donc en grande partie inexploité. Les infirmières sont peu outillées et formées pour en tirer profit. Parlons de gestion de performance. Rattaché au Bureau d'information sur la santé en Australie, le professeur Jean-Frédéric Lévesque a soutenu que l'analyse des données massives s'apprête à renouveler la gouvernance des hôpitaux. M. Lévesque a souligné que l'automatisation du système de santé public en Nouvelle-Galles du Sud permet désormais de publier des rapports indépendants sur la performance de chaque hôpital. Donc, chaque trimestre, il y a un rapport de performance qui paraît grâce aux renseignements provenant des milliers de patients qui ont été traités. En jumelant les données, nous parvenons à obtenir de l'information sur la progression de la fréquentation des urgences, la durée du traitement ou le temps d'attente qui permet de comprendre le génome organisationnel et d'activer les leviers de changement pour améliorer le système. Dieu sait qu'on en a grandement besoin. Donc, il faut articuler les finalités de l'intelligence artificielle dans le secteur de la santé. C'est ce que nous dit la chercheure Lehou. Et il faut, dans le système de santé, le public, peut et souhaite suivre les sujets complexes qui seront discutés. Car il y a là un défi, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan économique, politique, sociale et, on l'a dit aussi, éthique. Le soutien et l'engagement de tous les acteurs et parties prenantes est essentiel. Et on se doit, comme citoyen, j'ajouterais, de s'intéresser à comment se développera la Déclaration de Montréal sur le développement durable de l'intelligence artificielle.
Et parce que ça nous concerne tous.
Ça nous concerne tous, et cette déclaration-là, on sera appelé à y participer. Donc, je nous invite à y être attentifs. Alors, c'est un article de Martin Lassalle du Forum de l'Université de Montréal du 28 février 2018.
Je suis juste curieux parce qu'on a parlé peut-être d'avoir une intelligence artificielle qui jouerait le rôle de médecin. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas jouer le rôle de ministre de la Santé, peut-être?
Ben, il ne joue pas vraiment le rôle de médecin. Il appuie le médecin.
D'accord.
Il pourrait appuyer le ministre de la Santé.
Oui. D'accord.
Merci, Monique.
Ça me fait plaisir.
Chinatown, excusez-moi, qui nous chantait « Cassez-moi la tête ».
Merci Mathieu. Alors, je vous lis un texte dont le titre est « L'éducation, clé de la lutte contre le sexisme ». C'est un texte publié dans le journal Le Monde, un texte de Gaëlle Dupont, et c'est publié aujourd'hui. Les comportements des filles et des garçons sont façonnés dès le plus jeune âge par les injonctions parentales. Alors, on imagine deux enfants qui entrent dans la ludothèque, un petit garçon qui entre et qui se précipite sur le petit aspirateur bleu, tandis que la petite fille s'affaire autour du train. Ici, il n'y a pas de coin fille ou garçon. Au mur, une affiche résume l'état d'esprit de ce local de la ville de Cergy, qui est en haut, dans la section de Val-d'Oise, animée par l'association Le Jeu pour tous. Sur l'affiche, c'est écrit « Quel modèle proposons-nous aux enfants ?» Voilà 4 ans que Cécile Marouzé, cofondatrice de l'association, accueille des enfants accompagnés de leurs parents en s'efforçant de battre en brèche les stéréotypes sexistes véhiculés par les jouets. Elle dit « À travers eux, des signaux très forts sont envoyés aux enfants sur les valeurs associées au masculin et au féminin. Les kits de maquillage et les poupons suggèrent que les filles doivent prendre soin de leur apparence et s'occuper des autres. » Les personnages guerriers au visage impassible destinés aux garçons que ces derniers doivent être forts et sans sentiments. Ici, la cuisine, la table à repasser, le bateau de pirate, le château fort sont proposés aux deux sexes. Jouets sexués, est-ce que c'est anecdotique? Pas tant que ça. Les féministes et de nombreux spécialistes de l'enfance en sont persuadés, les comportements étant façonnés très tôt, l'éducation a un rôle capital à jouer dans la lutte pour l'égalité entre les sexes. L'école est déjà mobilisée, mais la famille, premier lieu de socialisation, est aussi concernée au premier chef. Pour de nombreux parents, les différences entre les filles et les garçons apparaissent cependant comme naturelles. Il y a, chez beaucoup d'adultes, l'idée qu'il est inévitable que les garçons soient bagarreurs, turbulents, paresseux. Observe Martine Cour, maîtresse de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. Tandis qu'il est attendu, on s'excuse pour la feuille, que les filles soient calmes, posées, plus généreuses. Les différences génétiques et hormonales influencent les comportements dans des proportions qui font l'objet de controverses scientifiques. Mais la variabilité entre individus d'un même sexe est importante. Et le rôle de l'environnement social dans la construction de l'identité sexuée n'est aujourd'hui plus contesté. Car les adultes ont très tôt des attitudes différentes entre les enfants des deux sexes. Une expérience célèbre a montré que des bébés en pyjama bleu, donc identifiés comme des garçons, étaient jugés toniques et robustes, tandis que les bébés-filles en rose étaient qualifiés de fins et délicats, alors que les filles étaient en bleu, et que les garçons étaient en rose. Autre exemple, les larmes sont perçues comme une manifestation de colère si elles viennent d'un garçon et de peur si elles viennent d'une fille. L'attribution de jouets sexués commence très tôt, avant l'âge de 2 ans, donc avant l'âge où les enfants sont en mesure d'exprimer des désirs. Les adultes mettent en place un processus et par la suite, ils ont l'impression de répondre à des demandes de l'enfant. Les différences biologiques ténues entre les sexes peuvent être amplifiées par un effet boule de neige. Les petites filles s'intéressent plus à leur environnement, donc les adultes leur parlent davantage, ce qui leur permet de développer plus rapidement leur langage, tandis que les petits garçons qui semblent avoir besoin de se dépenser plus s'occupent davantage seuls. Leur environnement va donc moins les solliciter par le sourire et la parole et davantage encourager les activités physiques. La transmission des conceptions du masculin et du féminin entre générations passe par de multiples canaux. Les jouets, les chansons, la littérature enfantine, les vêtements. Systématiquement, deux univers s'opposent. Au féminin est associé l'intérieur, la douceur, le dialogue, la beauté, l'altruisme. Au masculin, l'extérieur, l'affrontement, la performance, la force, la compétition. À l'âge de 10 ans, les petites filles, davantage sollicitées pour le ménage et les soins aux cadets, consacrent déjà plus de temps que les petits garçons aux tâches ménagères. Et ça influe sur les comportements ultérieurs. Même s'il faut être prudent quand il s'agit d'établir des relations entre enfants et adultes, on constate que les garçons occupent davantage et très tôt l'espace physique et sonore, tandis que les filles se font plus discrètes et développent une moindre estime d'elles-mêmes. Alors, c'est difficile pour les parents de sortir de ces modèles profondément intériorisés, mais déceler les stéréotypes peut aider à les contrecarrer. Est-ce qu'il faut pour autant priver les garçons de pistolets en plastique ou renoncer à partager sa passion d'enfant pour Cendrillon? Non. Il ne faut pas se transformer les garçons en filles et inversement, mais simplement ouvrir le champ des possibles, offrir une plus grande liberté. C'est ce qu'on nous souhaite aujourd'hui, messieurs, dames. Alors voilà, revenez-nous après la pause. On retrouve différents sujets passionnants à Voix de service magazine.
De s'agiter, faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi, en gesticulant sans arrêt, les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer. J'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh!
À force de remuer,
j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains.
Oh!
À force de remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer,
oh.
j'ai mal aux mains, à force de traîner les pieds. Hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Mal aux mains, San Severino.
J'aime bien cette chanson, vraiment. Alors, Monique, on parle de douleur et de ce qu'on peut faire pour avoir moins mal, en fait.
Oui, peut-être. Oui, peut-être, c'est ça. Alors, c'est un article d'Alain Labelle qui a été publié le 2 mars dernier pour le site Info-Radio-Canada. Et ce texte s'intitule « Se tenir la main pour soulager la douleur ». Le simple fait de tenir la main d'une personne qui souffre vous permet non seulement de synchroniser votre respiration et votre fréquence cardiaque avec la sienne, mais aussi vos ondes cérébrales. Oh. L'étude réalisée par des chercheurs américains et israéliens montre surtout que plus une personne est réconfortante et ressent de l'empathie pour une autre qui souffre et dont elle tient la main, moins la douleur est intense. Pavel Goldstein a lui-même expérimenté une synchronisation interpersonnelle au moment de l'accouchement de sa femme. Il a observé que lorsqu'il lui tenait la main, la douleur s'atténuait. Alors, il a voulu le vérifier en laboratoire.
Là, c'est là que tu nous le dis, là.
Quelques années plus tard. Mais il y en a d'autres, là,
oui,
qui...
Il y en a à venir, quand
tous les jours, il y a quelqu'un qui va venir.
Oui, c'est vrai.
Peut-on vraiment diminuer la douleur au toucher? Et si oui, comment? Alors, avec des collègues israéliens de l'Université de Haïfa, il a recruté 22 couples hétérosexuels âgés de 23 à 32 ans qui étaient ensemble depuis au moins un an. Ces couples ont été soumis à plusieurs scénarios de 2 minutes, alors que les chercheurs mesuraient leur activité cérébrale. Les scénarios comprenaient une situation dans laquelle les membres de chaque couple étaient assis ensemble sans se toucher, une autre situation dans laquelle ils étaient ensemble et se tenaient les mains, et une autre où ils se trouvaient dans des pièces séparées. Et les chercheurs ont ensuite répété les scénarios en faisant subir une légère douleur de chaleur à la femme. Alors, le simple fait d'être en présence l'un de l'autre, avec ou sans contact, était associé à une certaine synchronicité des ondes cérébrales dans une longueur d'onde liée à l'attention focalisée. Par contre, lorsqu'ils se tenaient les mains pendant qu'elles souffraient, la concordance cérébrale augmentait davantage. Autre donnée intéressante, lorsque la femme souffrait et que l'homme ne pouvait pas la toucher, le couplage de leurs ondes cérébrales diminuait. Donc, ces résultats corroborent d'autres recherches selon lesquelles la fréquence cardiaque et la synchronisation respiratoire disparaissent lorsque l'homme ne peut pas tenir la main de sa femme pour soulager la douleur. Il reste maintenant à comprendre comment exactement la synchronisation cérébrale avec un partenaire empathique permet de diminuer la douleur.
Alors, vivement l'empathie.
Oui, c'est ça, et le toucher. Oui. Alors, c'était un article d'Alain Lebel pour le site Info Radio Canada du 2 mars dernier.
Et dans un autre temps?
Dans un autre temps.
Parlons de dopamine.
Ben oui, alors je change complètement. Ouais. C'est plus maintenant, mais c'est il y a des millions d'années. Alors, la dopamine pourrait être au cœur de l'évolution humaine. C'est un article de Renaud Manuguera-Gagné, toujours pour le site Info Radio Canada, du 4 février dernier. Alors, l'humain est une espèce en apparence bien distante des autres membres du règne animal. Identifier clairement l'origine de cette différence a toujours été un casse-tête pour la communauté scientifique, et semble-t-il que des chercheurs américains ont peut-être mis le doigt sur l'une de ces distinctions, comme en fait foi le titre. On pourrait croire qu'au cours de l'évolution humaine, ce qui a permis à nos lointains ancêtres de se distancier des autres primates et du reste du règne animal, c'est la prise de volume de notre cerveau. Selon les fossiles, on remarque que...
Non,
un peu de sérieux, Yvan.
Non, mais à mon âge, c'est la prise de volume, point.
Oui, on remarque que le cerveau des espèces qui ont engendré les humains modernes a commencé à prendre du volume il y a 2 millions d'années. Et pourtant, ses aïeux avaient déjà commencé à utiliser certains outils ou à montrer des comportements sociaux différents des autres primates il y a au moins 3 millions d'années. Donc, pour certains chercheurs, il devait y avoir quelque chose d'unique qui nous a distingués des autres grands singes avant même que nous devenions intelligents. Alors, les chercheurs ont analysé des tranches de cerveau provenant de plusieurs primates, des gorilles, des chimpanzés, mais aussi des capucins, des macaques et des babouins. Et ils les ont comparés avec des cerveaux humains. Ils se sont concentrés sur le striatum, qui est une zone importante pour certains types de mouvements, pour l'apprentissage, pour notre comportement social et pour notre personnalité. D'abord, ils ont constaté que les humains, les chimpanzés et les gorilles, trois espèces relativement proches, ont tous un niveau de sérotonine plus élevé que celui des autres primates. Cette molécule peut être liée à un plus grand degré de contrôle de soi en présence d'un groupe. Mm-hmm. Par contre, les gorilles et les chimpanzés avaient une expression d'acétylcholine beaucoup plus élevée que chez les humains. Et c'est une caractéristique liée à un comportement plus agressif ou territorial.
Oh.
On pourrait revenir sur ton article, Marie, avec le bleu puis le rose, avec cette information-là. Bon, parenthèse fermée. Toutefois, la plus grande différence est la dopamine. Comparativement à tous les autres primates testés, les humains présentent la plus haute concentration de ce neurotransmetteur. Dans le cerveau, la dopamine peut jouer un rôle important dans plusieurs comportements sociaux, dans l'apprentissage et dans le contrôle du langage. Et elle est connue, comme on l'a déjà lu, pour son rôle dans le système de récompense.
Mmh, le plaisir.
Oui, c'est ça. Les résultats de la recherche laissent croire que le cerveau des humains, comparativement à celui d'autres primates, serait davantage orienté chimiquement pour aimer la coopération et l'entraide au lieu de l'agression. Ce qui aurait différencié notre espèce pourrait donc être notre facilité à former des groupes, du moins plus que chez les autres animaux. Donc, les chercheurs continueront d'explorer cette hypothèse en vérifiant ce qui se passe dans le cerveau des singes très sociaux, comme les bonobos. Entre-temps, cette étude est une première étape pour comprendre un segment très mystérieux de notre évolution.
C'est fascinant.
Mais on a appris, je pense, pas mal de choses aujourd'hui. Oui. Arrête de rire, Eva. Non, un article de Ranu. Tu me fais rater le nom de mon auteur, Renaud Manu Guerra-Gagné, quand même. Et c'était publié le 4 février 2018 sur le site d'Info Radio-Canada.
C'est parce que je pensais à plein de personnes.
Ah, qui ont un petit cerveau, un grand cerveau.
J'en dis rien.
Ou un peu de dopamine, pas beaucoup de dopamine.
Ou qui n'ont pas autant évolué que d'autres. Je ne sais pas.
Bon, c'est pas.
Alors, c'est sur cette note mystérieuse,
musique.
Je nous ramène. Alors, Yvan, encore un petit bout de carnet d'endorphine pour le plaisir.
Mais cet article-là, c'est un peu moi qui te le lis à toi.
À moi?
Oui, parce que ça fait bientôt 8 ans que je fais des défis sportifs à vélo.
Et que je partage ton enthousiasme.
Là, ça va raconter un petit peu pourquoi.
Et donc, j'invite tous les auditeurs à partager cette passion qui t'habite.
C'est ça.
Oui.
Alors, ça s'intitule « 7 raisons de se garrocher à corps perdu dans les défis ». C'est écrit par quelqu'un qui devient mon idole, finalement, Geneviève Lefebvre, dans la presse du 28 février 2018. Les engelures, les pieds en sang, les ongles qui tombent, la peau des mains qui fend, les coups de soleil en technicolore, les muscles claqués, le sourire craquelé par le vent, polaire ou désertique, les face-à-face avec les barbottes moustachues, ou les requins, ou les coyotes, insérez votre film d'épouvante préféré. Les running qu'on n'ose même pas enlever de peur que la peau décolle en même temps. Ah, vous étiez en train de déjeuner, désolé. Au moins, je vous épargne la photo. Au bout de tout ça, il se trouve toujours un non-initié qui nous fait une face d'interloqué en osant la question qui tue.
Pourquoi?
Je vous l'accorde, c'est une question valable. Qu'on se pose soi-même chaque fois qu'on croise un banc de barbottes brunes, gluantes et moustachues qui refuse de céder le passage dans une traversée de lac. Vous l'aurez deviné, la barbotte entêtée est ma bête noire. Cela dit, la lancinante question du pourquoi revient aussi autour du 32e kilomètre d'un marathon, devant un sentier escarpé où le vertige te poigne au ventre, ou face au blizzard polaire en haut d'un sommet des Chic-Chocs qui te fait soudain regretter de ne pas avoir pensé au parachute. Penses-tu bien me dire pourquoi je fais ça déjà? Veux-tu bien me dire pourquoi je fais ça déjà? Et puis, on prend une gorgée de bouillon, on grignote une date durcie par le froid, un camarade lance une blague qui vole très bas, mais qui nous fait rire très fort, et la mémoire nous revient. On fait ça parce que, premièrement, c'est épique. Dans un monde qui pousse fort pour nous normaliser et nous pressuriser à entrer dans des petites boîtes où nous aurons droit à des petits plaisirs et à des petits bonheurs, ça fait un bien fou de découvrir l'extra-large et le tour d'horizon en 360 à perte de vue. Redresse la tête, Moussaillon, la vie, c'est plus qu'un cubicule et des factures à payer. Deuxièmement, le défi est une fête et la préparation est aussi excitante que l'aventure elle-même. Pendant des mois, on s'entraîne à faire connaissance avec nos failles, nos forces, notre équipement, nos trucs pour déjouer la flemme ou le coup de fatigue. On croit qu'on se muscle le corps, mais non, oh non, pas que. On se muscle aussi la ténacité, le courage, l'humour, toutes choses qui nous servent dans d'autres domaines de nos vies, d'ailleurs. Troisièmement, on se cultive. Les mœurs amoureuses de l'Orignal, le patrimoine historique de la ville dont on ira courir les rues, l'apprentissage de mots-clés dans une langue étrangère, bagno, bathroom, chez soi. Ce sport est une fantastique occasion de découverte tous azimuts. Quatrièmement, l'émerveillement. La beauté des paysages, certes, mais aussi une beauté qui existait en nous et qui n'avait jamais eu l'occasion de se manifester. On ne se croyait pas capable d'accomplir ce défi de fou. On l'est, c'est magnifique. Cinquièmement, la modestie devant la force de la nature. J'insiste là-dessus pour avoir roulé beaucoup sous la pluie. On pourrait l'ostiner jusqu'à la fin des temps. C'est toujours elle qui aura raison et toujours nous qui devrons nous incliner. La sous-estimer, c'est risquer sa vie. Alors tu dis « OK, boss », puis tu fais à sa manière. Sixièmement, l'abandon. Dans l'effort, t'abandonnes tout. Ton orgueil, ton masque de fille qui sait où elle s'en va. Indice, t'as aucune idée à quel point tu le sais pas où tu t'en vas et où ça va bien te mener. Tes défenses et ton incapacité à demander de l'aide. Allô, je m'appelle Jen et j'ai besoin d'un coup de main. Miracle, une main amicale sort la cire de la bonne couleur et prononce cette phrase magique. Viens que je te farte. Septièmement, les rencontres merveilleuses. On ne dira jamais assez à quel point les liens du sport sont si serrés. Est-ce la file d'attente faite ensemble pour accéder aux toilettes chimiques? c'est vrai. Le chocolat échangé contre les pretzels?
Bon, ça, c'est déjà mieux.
Oui, on est en harmonie avec ça. Oui.
Des fois, ça se fait en attendant aux toilettes chimiques.
Oui, bien sûr.
Le fait de voir les masques sociaux tomber un à un devant l'effort et de se rendre compte que les gens sont à leur plus beau ainsi. Les fous rires, l'entraide, la camaraderie. Je pourrais continuer pendant 1000 ans sur tous ces gens qui m'ont accordé le privilège de me montrer de quel bois extraordinaire ils étaient faits. Ce sont des amis pour la vie. Au bout de la route, et bien au-delà des médailles, des podiums et des photos, il y a la certitude d'avoir eu accès à plus grand que soi, et la vie en extra-large, ça fait un bien fou. Oh. Alors, c'était 7 raisons de se garrocher à corps perdu dans les défis, écrit par Geneviève Lefebvre et soutenu par Yvan Deslauriers dans la presse du 28 février.
Soutenu âprement. On est en relâche, un texte qui s'intitule « Le double discours de la relâche ». C'est un texte de Marie-Ève Paradis, qui est éditrice et cofondatrice du magazine Planète F, F pour famille, publié le 2 février. Depuis les dernières semaines, j'ai lu tout et son contraire sur la relâche. Rien pour appuyer les parents dans leur rôle si important. D'un côté, alors que l'offre d'activité explose durant cette semaine, on nous rappelle à quel point c'est important, voire nécessaire, de ne rien faire durant la relâche. Il faut flâner, relaxer, rester en pyjama et laisser notre imagination errer pour reposer notre cerveau surchauffé par la routine. Il faut faire des cabanes de couverture ou rester à se chamailler dans le lit toute la matinée. Il faut faire l'éloge de la simplicité. J'ai l'impression des fois qu'on nous supplie de nous reposer, mais que le message finit par résonner chez plusieurs parents comme une quête de la performance, même dans le repos et dans la relaxation. Là où le double discours frappe, c'est quand on est confronté au discours publicitaire, de plus en plus subtil d'ailleurs. Sous la forme d'une expérience bien sentie, un parent raconte le merveilleux temps de qualité passé avec sa famille lors d'une activité tellement exceptionnelle. Vite, il faut absolument y aller. Sur les réseaux sociaux, l'illusion est inégalée. Je suis le public cible, j'imagine. On nous bombarde de promesses de moments précieux en famille, en payant à fort prix un forfait dans un hôtel. On nous vend l'idée de construire nos souvenirs de famille avec une journée amusante à glisser, à patiner, à skier, à faire de la raquette, etc. Comme si pour être bon parent, il fallait absolument faire des activités. En 2013, un sondage mentionnait que les Canadiens dépensaient en moyenne 2 655 $. Pendant la semaine de relâche du mois de mars.
55.
Wow. 2 655, oui. Pas étonnant que la publicité, c'est énorme. Que la publicité soit si intense. Les retombées économiques de la relâche sont importantes pour l'industrie touristique. Des moments précieux, merveilleux, du temps de qualité en famille. Voilà ce qu'on nous fait miroiter pour la relâche. Mais dans les groupes de parents sur Facebook, le discours est différent. On demande des suggestions d'activités sur un ton qui vire un peu à la panique. Les enfants seront à la maison toute la semaine. Avez-vous des suggestions d'activités? Curieusement, même dans les groupes mixtes, je constate que ce sont principalement des femmes qui posent ces questions. Un autre exemple de cette fameuse charge mentale? Passons. Je tiens aussi à mentionner que cette semaine tant attendue par grand nombre de travailleurs du secteur public, notamment en éducation, n'est pas la réalité de tous les travailleurs. Avec de plus en plus de travailleurs autonomes, d'employés précaires, d'étudiants, le concept de semaine de relâche est de moins en moins concret pour plusieurs jeunes parents. Au Québec, les normes du travail obligent les employeurs à accorder 2 semaines de congés payés par année à leurs employés et 1 semaine sans solde. Pour une grande partie des travailleurs en service à la clientèle dans le secteur privé, c'est ce qu'ils auront. 2 semaines. Pour toute l'année, que les parents épuiseront peut-être avant même d'avoir pris de vraies vacances, jonglant avec les journées pédagogiques ainsi que tous les virus qui circulent et qui les obligeront à prendre soin de leur progéniture malade pendant les mois d'hiver. Donc, si les parents prennent 2 semaines de vacances pendant l'été pour décrocher, les occasions de se reposer durant le reste de l'année fondent comme neige au soleil. Noël et la relâche prennent le bord. Et on entend déjà quels parents ingrats de laisser les parents au service de garde ou au camp de jour.
Les enfants.
J'ai encore dit les parents à la place des enfants.
Ça pourrait être une idée intéressante.
Oui, c'est ça. Oui, c'est on ça. Envoie les parents au service de garde.
Quels parents ingrats de laisser les enfants au service de garde ou au camp de jour, surstimulés et épuisés, alors que la relâche est faite pour se reposer. L'école primaire offre 180 jours d'école par année au Québec. Les travailleurs doivent travailler 240 jours par année. Il y a 60 jours d'écart. Pour les parents d'âge scolaire, il faudrait choisir entre 2 semaines durant la saison estivale ou 1 semaine à Noël et 1 à la relâche. Logiquement, les parents devraient avoir accès au minimum à 4 semaines de congé. Pour solidifier les moments en famille, pour sortir de la routine, pour être présent quand les enfants sont en congé, pour se reposer en famille. Mais en réalité, il faut souvent beaucoup d'ancienneté pour arriver à 4 semaines de congés payés. Ancienneté que les parents auront lorsque leurs enfants auront quitté le nid familial. Allô, l'ironie. Et d'ailleurs, demander des vacances pour la relâche n'est pas signe que les parents les obtiendront. Selon les normes du travail, l'employeur peut décider du moment des vacances de ses employés. Sur la base de l'ancienneté, les travailleurs plus âgés choisiront leurs vacances avant celles de jeunes parents. Ne pourrait-on pas donner la priorité aux parents durant la semaine ou la semaine de relâche pour qu'ils se reposent avec leurs enfants? Les travailleurs peuvent espérer une troisième semaine de travail payée après 5 ans de loyaux services dans la même entreprise. Sachant que les travailleurs d'aujourd'hui ne restent plus dans un seul emploi pour toute leur vie, sachant qu'ils n'auront pas de sécurité d'emploi dans les premières années sur le marché du travail, le message qu'on donne aux parents est « débrouillez-vous ». Tout en leur disant que c'est tellement important de relaxer en famille, de profiter des moments de la relâche pour solidifier les liens, double discours fois 1000. Et si on pensait le travail autrement que par l'ancienneté? En Suède, on propose par exemple les horaires allégés pour les parents d'enfants de moins de 8 ans et un minimum de 25 jours de congés payés, en plus de 11 jours de congés fériés. Ce serait une vraie révolution. Alors, c'est un texte de Marie-Ève Paradis, éditrice cofondatrice du magazine Planète F, publié le 2 février.
Alors, mesdames, écoutez bien. Le docteur Paul Poirier, dont j'ai parlé la semaine dernière, médecin à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, n'a que ce mot à la bouche, prévention. Les femmes, dit-il, sont plus vulnérables que les hommes. Elles banalisent leurs symptômes. Elles croient qu'elles ne peuvent pas avoir de problèmes cardiaques parce qu'elles ne fument pas et blablabla. Pourtant, les femmes ont 5 à 7 fois plus de chances de mourir, je ne sais pas si c'est une chance, du cœur que du cancer du sein. La prévention, ajoute-t-il, c'est simple, ne pas fumer, bien manger, faire de l'exercice. L'idée, ce n'est pas de manger du gazon, mais il faut éviter les gras trans et les excès. L'être humain attend d'être au bord du précipice avant de se prendre en main. Les baby boomers arrivent ici et ils me disent « Docteur, faites tout pour moi ». Et je leur réponds « OK ». Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, les 30 dernières années?
Bonne question. Monique, une capsule.
Une petite capsule linguistique, toujours de notre monsieur Guy Bertrand.
Oui.
Peut-on avoir de la misère?
Oh oui.
Ça m'arrive souvent.
Le mot misère est un synonyme de malheur et d'adversité. On peut être dans la misère.
On peut aussi.
Mais on ne peut pas avoir de la misère.
Ah, bon.
Au lieu de se dire qu'on a de la misère à faire quelque chose, il serait plus correct de dire qu'on a du mal, de la difficulté ou de la peine à faire quelque chose.
Ah, d'accord.
Voilà.
OK.
Alors, une des activités qu'on peut faire durant cette semaine de relâche, c'est gratuit d'ailleurs, c'est l'Écomusée du Fier Monde et c'est du 7 au 18 mars. L'exposition d'un œil différent à ce site particulier, les œuvres qui sont exposées, dessins, peintures, photographies, ont été réalisées en grande partie par des artistes de tous âges qui ont une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Mmh. Alors, c'est formidable, c'est gratuit. L'Écomusée du Fier Monde. Yvan?
Le chiffre de la semaine, mesdames, 14 600.
OK.
C'est le nombre de kilos de nourriture que la Protection de la faune du Québec a donné aux banques alimentaires en 2017. 14 600 kilos. Il s'agit de gibier et de poissons confisqués à des braconniers.
Ah, mon Dieu!
Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Est-ce qu'on termine avec quelques mots d'enfant?
Hein? Oui, pourquoi pas.
La boue, parce qu'on s'enligne vers le printemps.
Oui.
Selon Alice, 5 ans, c'est de la confiture de terre.
Oh, c'est bon!
Et
on
les
a
jouets...
hâte d'en manger!
C'est ça, c'est du sucré, ça?
Ça dépend. Les jouets, selon Karim, 7 ans... Au début, c'est bien, mais après, ça fait que du désordre dans la chambre. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Mathieu Tessier pour les liens musicaux, la mise en onde. Merci Monique, merci Yvan. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve la semaine prochaine. Au plaisir!
Au plaisir!